RFI Soir, c'est avec vous, Nemo Ampis.
Merci Gilles, l'accent du monde, c'est parti. L'actualité internationale de la semaine vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir avec Mélissa Chemam de la rédaction anglophone. Bonjour Mélissa.
Good evening.
Vous revenez ce vendredi sur le rôle des agences des Nations Unies face aux crimes commis dans la bande de Gaza et au Liban. Avec nous également, Pissé Mam de la rédaction en Khmer. Bonjour.
Tsousdei.
En ce jour de la Toussaint, votre rédaction s'est penchée sur la différence entre la France et le Cambodge concernant le rapport à la mort et aux obsèques. Et puis, Christina Teaca est aussi avec nous en studio. Bonjour.
Bună seara.
De la rédaction de RFI en roumain. À deux jours maintenant de la présidentielle en Moldavie, deux candidats, l'une est pro-occidentale, l'autre est pro-russe. L'occasion pour le président français Emmanuel Macron d'adresser un message aux électeurs, je le cite, « La voix de l'Europe est celle de la liberté et de la démocratie. »
Nemo Ampis.
Mais c'est d'une autre élection que l'on parle pour commencer. Peut-être le scrutin le plus important de cette riche année électorale, la présidentielle américaine du 5 novembre. Comment est-elle traitée? Quelles sont les attentes sur vos zones respectives? Mélissa Chemam, la rédaction anglophone dont vous faites partie, a envoyé Yann Van Der Meyde en Pennsylvanie cette semaine.
Oui, tout à fait, Nemo. Et il réalise une série de reportages. Alors, pour vous en citer quelques-uns, d'abord sur l'importance du vote des femmes. Alors, comme vous le savez, il y a une candidate qui, peut-être pour la première fois, aurait une chance d'être élue présidente. Il travaille également sur la question de la circulation des armes et sur le rôle des médias, des réseaux sociaux, de la différence de traitement de cette campagne. Vous le savez, par exemple, le LA Times, le Los Angeles Times et le Washington Post ont refusé de soutenir un candidat cette année, ce qui est pourtant une tradition. Cela fait débat et Yann a rencontré Wesley Lockrone, qui est politologue à l'université de Widener, à Chester, donc en Pennsylvanie. Ils analysent ensemble les changements récents qui ont affecté le monde médiatique et leur implication sur cette élection. Voici un extrait de son reportage.
We are such a divided society right now that our media reflects the divided society. And politics in many ways...
Mais ça que nous dit Wesley Lockrone.
Alors, il nous dit, nous vivons dans une société tellement divisée ici aux États-Unis que nos médias reflètent cette division. La politique est devenue à bien des égards une forme de divertissement aux États-Unis. On choisit des chaînes d'information que l'on regarde, en particulier des chaînes câblées, en fonction de son idéologie. Nous avons donc des chaînes d'information pour les conservateurs, d'autres pour les libéraux, d'autres pour les progressistes. Et puis chacun regarde ce qui correspond à son idéologie. Donc la plupart des gens veulent entendre des choses qui confirment leurs préjugés. Ils ne regardent pas les informations pour pouvoir se faire une opinion sur des sujets ou sur la réalité. Ils les regardent pour confirmer ce qu'ils pensent déjà sur des types de personnes, par exemple, et sur lesquelles ils ont déjà des convictions.
Et un autre reportage vidéo de Yann est consacré à l'augmentation de la pauvreté dans les grandes villes comme Philadelphie.
Tout à fait, vous pourrez voir ça sur notre chaîne YouTube. Le rayonnement d'une ville comme Philadelphie est historique, il est toujours visible dans les immeubles, dans l'architecture de la ville, mais par contre, au quotidien, c'est la négligence politique, les réductions budgétaires qui ont ruiné sa vie sociale.
Et puis c'est même le résultat de ces élections est également particulièrement scruté en Asie en général.
Oui, Nemo, car un second mandat de Donald Trump peut avoir un impact sur le commerce en Asie. Il a l'intention d'imposer des droits de douane de 60% sur les produits chinois et des droits de douane de 10 à 15% sur les importations en provenance de tous les autres pays. Cette mesure pourrait entraîner des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement asiatiques qui ont partiellement quitté la Chine à la suite de la guerre commerciale menée par Trump pendant son premier mandat. Les pays asiatiques bénéficiaires de la guerre commerciale comme l'Inde ou le Vietnam pourraient constater la baisse des nouveaux investissements directs étrangers. Pour ce qui est le Cambodge, le marché est très dépendant des investissements chinois. Donc, tant que l'économie chinoise est dans l'impasse, le Cambodge aussi.
PIC, la question de la sécurité régionale inquiète aussi les pays asiatiques, notamment autour du dossier de Taïwan.
En effet, Trump s'est prononcé en faveur d'une réduction drastique des dépenses consacrées aux engagements militaires à l'étranger. Taïwan a suivi de près cette situation. La Chine pourrait en profiter pour lancer une offensive sur Taïwan, ce qui va menacer la stabilité régionale. Le caractère imprévisible de Donald Trump inquiète beaucoup les pays alliés des Américains en Asie, notamment le Japon. Les Japonais ont peu confiance en Trump quant au respect de l'accord de défense mutuelle entre les États-Unis et le Japon. Kamala Harris défend le statu quo et la paix dans le détroit du Taïwan, tandis que Trump, il a maintes fois exprimé ses doutes sur l'utilité de la présence américaine dans la région.
Et cela peut aussi avoir un impact dans le cadre du conflit de la mer de Chine méridionale qui oppose la Chine et certains pays d'Asie du Sud-Est.
Oui, évidemment, la sécurité régionale avec le conflit de la mer de Chine méridionale pourrait également être compromise si Trump réduit la présence militaire américaine aux Philippines notamment. De manière générale, la politique de future administration américaine peut entraîner des répercussions en Asie du Sud-Est, mais en réalité, la région commence déjà à se tourner vers la Chine. Un récent rapport d'enquête 2024 publié par l'Institut ICA Yusuf Ishak, basé à Singapour, montre que la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le choix dominant si la région devait s'aligner sur la rivalité actuelle entre ces deux puissances. La Chine est désormais perçue à bien des égards comme la puissance économique et politico-stratégique la plus influente de la région.
Un scrutin très suivi, donc on l'a également compris, en Asie, mais aussi en Roumanie, Christina Teaca, puisqu'un sondage national a été mis en place pour savoir qui de Kamala Harris ou de Donald Trump serait un meilleur choix pour la Roumanie.
Par rapport, il y a 4 ans, le soutien de Donald Trump en Roumanie a diminué. Il n'est plus considéré comme un leader qui développera les partenariats stratégiques avec la Roumanie. C'est la conclusion d'un sondage publié hier par l'Institut de recherche InScope Research Roumanie. 43% des Roumains interrogés pensent qu'en cas de victoire électorale, Kamala Harris aura une relation plus étroite avec la Roumanie que Trump en raison de la prévisibilité de sa politique étrangère. D'un autre côté, 38% des Roumains continuent de soutenir que le leader républicain aura une meilleure relation avec la Roumanie. La position de Donald Trump visant à mettre fin au conflit en Ukraine est perçue comme une menace pour la stabilité en Europe de l'Est. On se souvient, Donald Trump a toujours promis de restaurer la paix en Europe et évoqué à plusieurs reprises ses capacités à mettre un terme à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il n'a jamais caché non plus son hostilité à l'aide militaire, financière et humanitaire fournie à Kiev. Et pourtant, l'avenir de l'Ukraine est suspendu au résultat du 5 novembre et le président Volodymyr Zelensky en est conscient de la volonté de Moscou de négocier après bientôt 3 ans d'une invasion destructrice dépend d'un premier ordre des élections aux États-Unis, a-t-il avoué.
L'élection présidentielle américaine et tous ses détails, c'est à suivre au quotidien sur Radio France Internationale. Tous nos services et nos rédactions sont mobilisés pour vous faire suivre au mieux le duel Kamala Harris-Donald Trump. Et l'un des sujets majeurs d'ailleurs de cette campagne électorale, c'est la situation au Proche-Orient. Je me retourne vers vous, Mélissa Chemam, rédaction anglophone. Vous avez consacré cette semaine une émission sur le rôle des Nations Unies dans la guerre, alors que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, s'est exprimée à l'ONU, l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens, mais aussi l'UNICEF et l'UNOCHA, ont alerté sur les atrocités sans précédent perpétrées dans le nord de Gaza et dans la plupart des territoires palestiniens. Et Israël a voté cette semaine pour la suspension des activités de l'UNRWA.
Oui, de nombreux sujets sur cette situation très tendue au Proche-Orient que la rapporteuse Francesca Albanese a mis sur le devant de la scène grâce à une présentation devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York mercredi. La rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés a publié ce nouveau rapport récemment, mais donc il a été présenté cette semaine. Alors pour RFI English, je lui ai demandé comment soutenir le travail humanitaire et onusien à Gaza, vu que c'est quelque chose qu'elle observe tous les jours. Comment la région peut aussi échapper à un conflit désormais régional qui menace de s'envenimer. En particulier, la situation rend le travail même des agences de l'ONU extrêmement difficile, puisqu'Israël a visé des casques bleus au Liban, comme vous l'avez traité sur l'antenne d'AFI, et tente de bannir une loi qui soutient les réfugiés déplacés palestiniens en territoire israélien et en Cisjordanie. Alors écoutez-le.
So we have been the first to experience this closure
Mélissa, que vous a rapporté Francesca Albanese?
Alors, elle dit que forcément, en tant qu'agence sur place de l'ONU, ils ont été les premiers à constater cet isolement des Palestiniens par rapport au monde extérieur, par rapport à des témoins, des observateurs. Et c'est devenu la règle maintenant qu'Israël expulse notamment progressivement toutes les présences de l'ONU et les observateurs indépendants de ce territoire qu'il a pris, elle le rappelle, illégalement. C'est pourquoi elle nous explique que son travail se fait surtout grâce à des contacts réguliers, quotidiens, dit-elle, avec des Palestiniens, des organisations israéliennes, il ne faut pas l'oublier, des associations juridiques, des avocats, des médecins, le personnel de l'ONU qui est encore sur place et des journalistes, un réseau de contacts étendu. Et les Nations Unies restent sa source d'information de référence. Elle valide quand même que rassembler ces faits dans ce rapport sur le droit international a donc été un défi.
Et Mélissa, avec ce récent rapport, qu'espère l'envoyé des Nations Unies ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, une petite précision, on a parlé de l'élection aux États-Unis. Elle prétend qu'aucun des deux candidats n'est une bonne nouvelle pour la situation au Proche-Orient, contrairement peut-être à nos amis en Asie. Voilà, on n'est pas trop sur ce créneau. Et elle nous dit qu'avec le niveau de souffrance actuel, les échecs des Nations Unies et de la communauté internationale, en fait, ce qui est absolument urgent, mis à part le fait de faire respecter le droit international, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Écoutez-la.
It must be peaceable because we are not talking of a ceasefire to put an end of hostilities. There is no hostilities.
Là encore, Mélissa, quel est le fond du discours de l'envoyé des Nations Unies?
Alors, c'est tout son propos. Elle dit il faut qu'un cessez-le-feu soit possible. Nous parlons de mettre fin à des hostilités. Elle dit il ne s'agit même pas de changer la donne des rapports de force, juste d'arrêter les massacres. Elle dit qu'Israël massacre des civils. Et les gens doivent le comprendre, l'entendre, ce qui est pas forcément facile, vous imaginez, à New York. Mmh. Elle nous rappelle qu'elle voit des images tous les jours, que c'est elle qui les étudie, valide avec des experts, des médecins légistes sur le terrain, ce qui se passe, et qu'il s'agit effectivement de massacres de civils, notamment dans des camps de réfugiés, camp après camp, dit-elle, quartier après quartier, abri après abri et hôpital après hôpital, surtout dans le nord de Gaza, avec la volonté de chasser donc les populations. Elle dit que si cela continue, cela se poursuivra également dans le sud de la bande de Gaza, et elle rappelle enfin que les trois principaux dirigeants du Hamas ont été tués dans cette guerre, dont le leader politique Ismaël Haniyeh et le chef militaire Yahya Sinwar. Et donc, avec presque 43 000 personnes tuées par des bombes et des snipers, elle dit que faut-il d'autre qu'un cessez-le-feu.
Merci Mélissa Chemam. Ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint. Et vous, Pays Semam, vous vous êtes questionné sur la différence entre deux pays concernant le rapport à la mort et aux obsèques. Ces deux pays, ce sont la France et le Cambodge. Pays, quel constat faites-vous entre nos deux peuples en matière de croyance en une vie après la mort?
Oui, Nemo, au Cambodge, la grande majorité des gens croient beaucoup en une vie après la mort. En tant que bouddhiste, les Khmer, en général, croient qu'on peut réincarner dans une autre vie. Cela peut être une vie plus riche dans la misère ou même dans une autre forme de vie d'autre que des humains, selon les karmas et les mérites de chacun. En France, cette croyance en une vie après la mort est assez stable depuis les années 70. Selon un sondage fait par l'IFOP en 2023, 31% des Français croient en une vie après la mort. Cette tendance s'exprime plus fortement chez les jeunes de moins de 35 ans, avec plus de 40%. Si la croyance en paradis et en enfer a baissé de 4 points depuis 2004, de plus en plus de Français croient à la réincarnation. D'après le résultat de cette enquête de l'IFOP, ils sont 32% à croire en réincarnation, une augmentation de plus de 10 points depuis 2004.
Et en matière de choix d'obsèques, Paissé, vous avez constaté un rapprochement entre la France et le Cambodge?
Oui, effectivement, Nemo, au Cambodge, selon la tradition hindouiste et bouddhiste, la crémation est la règle pour que le corps libère l'âme afin qu'elle parte pour une possible réincarnation. Il est donc très rare que les gens se fassent enterrer, sauf chez les sino-cambodgiens. En France, pays de tradition chrétienne, on assiste actuellement à un véritable basculement en matière de choix d'obsèques. Toujours selon le sondage de l'IFOP, La majorité des Français optent aujourd'hui pour la crémation, alors qu'il y a une quarantaine d'années, 53% des gens choisissent l'enterrement contre 20% seulement pour l'incinération. Dans les détails des réponses de sondage de l'IFOP, le choix d'être incinéré émane principalement des personnes âgées de plus de 65 ans, à savoir 64% d'entre eux.
Merci. Et puis c'est... Bah, enfin, Christina Teaca, vous vous êtes intéressée à un autre scrutin, la présidentielle en Moldavie, qui oppose une dirigeante pro-occidentale et un candidat appelant à renouer avec Moscou. Le vote a lieu dimanche. Et ce vendredi, le président français Emmanuel Macron a adressé un message aux électeurs. Le leader de l'Élysée l'affirme, la voix de l'Europe est celle de la liberté et de la démocratie.
Ébranlé par la courte victoire du oui au référendum sur l'Union européenne, la Moldavie doit faire un choix crucial entre la dirigeante sortante pro-occidentale Maia Sandu et un candidat appelant à renouer avec Moscou. Après les législatives en Géorgie, marquées par une victoire du parti au pouvoir contesté par plusieurs chancelleries européennes, les yeux sont rivés vers Chisinau. Dans ces deux ex-républiques soviétiques, la Russie est accusée d'ingérence dans les processus électoral, des allégations catégoriquement rejetées par le Kremlin. Achat massif des votes, des informations, propagande, nous avons gagné honnêtement dans un combat injuste, avait lancé Maia Sandu au lendemain du très disputé référendum sur l'Union européenne, annonçant un combat difficile au second tour dans ces pays voisins de l'Ukraine. Arrivée en tête au premier tour avec 42 des voix, Maia Sandu, ex-économiste de 52 ans, devenue une personnalité européenne, affronte Alexandre Stoyanoglou, qui a obtenu un peu moins de 26% des voix, ancien procureur général, 57 ans, soutenu par les socialistes pro-russes. Il y a deux jours, Maia Sandu disait:
alegerea candidatului socialiștilor va afecta relațiile noastre cu România, Ucraina.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Maia Sandu?
Maia Sandu disait que l'élection d'Alexandre Stoyanoglou affecterait les relations avec la Roumanie, l'Ukraine, l'Union européenne.
Ce va însemna alegerea mea în calitate de președintă? Voi continua să mențin stabilitatea și pacea în țara noastră?
Maia Sandu promet qu'elle va continuer à assurer la stabilité et la paix du pays, le développement du pays et œuvrer pour l'intégration du pays dans l'Union européenne. De son côté, on écoute aussi Alexandru Stoyanoglou.
Recunosc contribuția fiecărui candidat și consider că multe din viziunile și proiectele lor.
Alexandre Stoyanoglou, il est plus à l'aise en russe qu'en roumain, la langue officielle de la Moldavie, mais il mélange souvent les deux. Il espère bénéficier des votes des candidats présents au premier tour.
Et pour rappel, Christina, la Moldavie a déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne. C'était en mars 2022 et des négociations sont ouvertes en ce sens depuis décembre 2023. Ce qui n'est pas au goût de Moscou, qui aimerait reprendre la main sur cette ancienne république soviétique.
La présidente sortante a dénoncé au soir des premiers tours des élections une attaque sans précédent contre la liberté et la démocratie de Moldavie au moyen des dizaines de millions d'euros, des mensonges et de la propagande. La police parle d'un système de fraude électorale de grande ampleur financé par l'oligarque moldave Ilan Shor, impliquant les transferts de 39 millions de dollars à plus de 130 000 Moldaves via une banque russe. Mais au moins, jeudi, la Cour suprême de Moldavie a validé les résultats du référendum du 20 octobre par lequel les Moldaves se sont prononcés à une très courte majorité en faveur d'un rapprochement avec l'Union européenne. Alexandre Stoyanoglou avait boycotté le référendum qualifié de parodie pour servir les ambitions de Maia Sandu et il a contesté les résultats extrêmement serrés.
Et un pronostic peut-être pour Maia Sandu?
L'avance est large, mais la bataille est loin d'être gagnée par la chef d'État. Plusieurs petits candidats ont appelé à soutenir son adversaire, invoquant comme en Géorgie le risque d'être entraîné dans un conflit armé avec Moscou et de subir le même sort que l'Ukraine. Juste pour conclure, le président Volodymyr Zelensky a affirmé il y a quelques jours que nous devrons reconnaître qu'en Géorgie, la Russie a gagné et il a averti que la Russie fera de même en Moldavie.
L'élection présidentielle présidentielle en Moldavie. C'est à suivre ce dimanche et ce sera évidemment à suivre sur Radio France Internationale. 18h28 ici à Paris, c'est la fin de cette édition d'Accent du Monde. Merci à Mélissa Chemam de la rédaction anglophone. Merci Mélissa.
Cheers.
Merci à PC Mam de la rédaction en Khmer. Merci. Et puis à Christina Teaca de la rédaction de Radio France Internationale en roumain. Dans un peu moins d'une minute sur la radio du monde, les dessous de l'Infox, vous retrouvez Grégory Genevrier et vous retrouvez évidemment cette édition d'Accent du Monde sur l'ensemble des plateformes d'écoute.